Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Debordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaiji.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu, que vous avez peut-être déjà entendu dans le podcast précédent, et puis dans un autre aussi qu'on avait fait au printemps. Mathieu est là pour 5 semaines de stage avec moi, donc on va peut-être faire un podcast par semaine pour retracer le parcours. Et puis bon, là, on est en train de se demander de quoi allons-nous donc parler. Et j'ai commencé à évoquer un sujet et ça a lancé Mathieu, donc ce que je vais faire... c'est que je vais synthétiser ce que je disais pour relancer la question, en fait, le sujet de conversation. Et puis, ensuite, tu pourras partir sur un peu ton histoire, ton parcours, hein, ce que ça t'a évoqué. Ce qui est marrant, c'est que je me demandais sur quoi on allait partir. Et j'avais deux idées, enfin une, disons, qui englobe deux choses. C'était de réagir à des commentaires et à un mail que j'ai reçu. Donc, le commentaire, c'est quelqu'un qui demandait... c'était quoi déjà ? Comment créer son style ?
Ah oui, c'est ça, comment créer son style de Tai Chi. Oui.
Alors, voilà, j'ai retrouvé exactement. La question, c'est, pour créer son style de Tai Chi, comment faire ? Il faut utiliser la respiration pour se laisser guider ? Point d'interrogation. Question qui m'a laissé... dans un premier temps, j'ai pas trop su quoi répondre pour l'instant, d'ailleurs j'ai pas répondu, mais qui est intéressante. Je peux imaginer, bon, soit c'est quelqu'un qui a de l'expérience et dans ce cas là c'est une boutade, soit c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui du coup se pose la question et y a pas de quoi rigoler, c'est une question sincère. On peut comprendre quand on n'est pas dans le monde de ces pratiques là cela dit, donc j'hésitais entre ça. Est-ce que ça peut être un sujet de conversation?
On peut en parler aussi, ouais.
Redis-moi ce que tu as dit tout à l'heure, ça synthétisait pas mal, c'était pas mal comme réponse.
On pourrait prendre ça, dans un premier temps, moi j'ai vu ça, ça m'a fait sourire surtout, peut-être le fait d'avoir l'expérience et d'avoir l'impression que la question est un peu lunaire aussi. Et puis de se dire, en y répondant sérieusement, on pourrait se dire, comment créer son style de Tai Chi? Trouver déjà une école qui est sérieuse, donc éprouver un peu, simplement trouver une école sérieuse, pour résumer, la suivre à corps perdu peut-être pendant longtemps, pendant une bonne trentaine d'années, et être complètement investi là-dedans, et puis se poser la question à nouveau 30 ans après, ça serait le plus gagné en expérience dans quelque chose de sérieux et s'y investir à fond. Je pense que à partir de là, voir si c'est vraiment utile. Voilà, c'est ça que je disais. Voir si c'est vraiment utile de créer son style.
Je pense que la question, en pratiquant, en acquérant de l'expérience, la question après, elle est vite répondue, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi créer son style après.
Déjà, pourquoi avoir envie de créer son propre style? Ça répond pas à la question. Répondre à une question par une autre question.
Oui, mais voilà, déjà, c'est une bonne piste, de suivre une bonne école pendant longtemps, très longtemps, et voir l'usage, l'utilité vraiment de créer son propre style. Puis, normalement, arriver à ce stade-là, on peut répondre un peu plus peut-être à l'utilité.
J'en ai parlé un petit peu cette semaine d'ailleurs au stage, mais cette histoire de... Là, moi, j'insiste toujours sur l'histoire de suivre les instructions, suivre la méthode fidèlement, etc. Donc, on a une méthode qui est la même pour tout le monde, mais on est tous différents, on est d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que cette méthode, elle va prendre la forme différente chez chacun. Par exemple, moi, j'ai une manière d'enseigner qui va être différente qu'un autre instructeur HME qui suit la même méthode. Donc, quoi qu'on veuille, on peut pas y réchapper. Le type de jean qu'on va même manifester, même les qualités et la manière de les manifester vont être un mix de notre vie, de ce qu'on est et de la méthode appliquée, etc. Donc elle va forcément devenir propre à nous. Mais ça veut pas dire qu'il faut que je transforme le tai chi pour le rendre compatible avec moi. Dans un sens, c'est plutôt à moi de me transformer à travers l'entraînement. Et par contre, si je ne transforme pas la méthode, c'est-à-dire que je vais la transformer telle que je l'ai reçue, du coup cette méthode après elle va prendre la forme différente chez toi, puis chez quelqu'un d'autre. Mais si toi t'es fidèle, tu vas retransmettre la méthode telle que tu as reçue, et comme ça l'enseignement il est préservé et il n'est pas déformé. Mais en fait on peut difficilement y échapper quand même. Aujourd'hui on a les vidéos et tout ça, donc on peut avoir accès au même contenu. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait peut-être une source au départ qui était la même, mais on a aujourd'hui une multitude de tai-chi différents parce que forcément, ça prend des
déjà des teintes, comme tu dis, selon nos filtres.
Exactement.
Même quand on veut être extrêmement fidèle, ben on a nos filtres qui vont changer les choses. Et puis, on voit de nos jours la petite interprétation de chacun, le petit truc qu'on va enlever ou rajouter, alors intentionnellement ou pas, selon les pratiquants. Mais si on parle du tai chi style yang, c'est sûr qu'il y a une telle diversité. Et on voit vite, hein, en quelques générations, rien une génération, comment les choses peuvent changer. Mmh. Et bon, ben, l'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut pour transmettre au mieux cette méthode, mais c'est toujours, tu dis, on modifie toujours un peu et certains veulent modifier, donc c'est là que ça se complique aussi.
Oui, parce que si c'est déjà la méthode est déjà pervertie, si en plus on le fait soi-même volontairement, bon, après c'est vrai que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver une bonne méthode fonctionnelle et une méthode qui fonctionne pour beaucoup de monde, justement, en fait, qui est pas forcément fonctionne que pour certains types de personnes. Si on regarde entre quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui est plutôt d'un tempérament calme, quelqu'un qui a déjà une proprioception développée, quelqu'un qui a l'habitude d'être à l'écoute de lui, quelqu'un qui est pas du tout à l'écoute de lui, quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire et la visualisation, quelqu'un qui... forcément, ça fait une multitude de facettes différentes. Et ce qui va varier, c'est pas la méthode. C'est la quantité de temps et d'attention portée à des certains aspects. Où certaines personnes vont devoir plus développer certains aspects pour développer ces aspects qui sont moins développés chez eux de base, on va dire, pour compenser. Et d'autres aspects, etc. Donc quelqu'un qui est plutôt peut-être mou, et etc., il va devoir plus travailler les aspects dynamiques. Quelqu'un à l'inverse qui est très agité va peut-être avoir besoin de travailler plus les aspects de se calmer, les mobilités, etc. Enfin, je prends des exemples faciles à comprendre.
Oui, oui.
Mais on cherche l'équilibre en tai-chi, yin-yang, donc... Voilà, ça a été beaucoup. J'ai pas mal parlé d'ailleurs cette semaine de ça.
Donc tu nous as amené à connaître un peu les extrêmes yin et yang pour trouver un peu cet équilibre. T'en avais parlé dans un podcast, il me semble, cette question de diversité des écoles et des méthodes et de comment ça pourrait s'expliquer par le fait d'élèves de nature différente qui allaient voir un maître. Alors, je sais pas, ça date un peu. Et je suppose que c'est dans un de tes podcasts.
C'est fort probable que j'en ai parlé, ouais.
Et donc, selon les tempéraments, recevoir des enseignements différents et donc, sans comprendre ça peut-être ou en allant un peu trop vite, en tout cas, donner des méthodes qui sont adaptées à eux ensuite quand ces élèves se mettent à enseigner et pas avoir assez de recul sur, juste ton. On m'a donné ça aussi par rapport à mon tempérament ou à ma façon d'être. Et là-dessus, j'ai un bon exemple de cette semaine-là, où avec un des participants au stage, moi, j'ai vu des choses qu'il faisait et que tu n'as pas repris, des aspects techniques, disons. Et en ton absence, on a parlé d'aspects techniques et j'ai vu que dès que je donnais un petit élément technique, cette personne avait tendance à être... à focaliser un petit peu dessus, à être vraiment très attentif. Et j'ai vu cette question d'enseignement et de méthode où j'ai vu que c'était pas pertinent de lui donner des aspects techniques, c'était pas le moment. Et ça m'a donné un peu la réponse de pourquoi il en recevait si peu aussi, parce qu'il fallait qu'il se focalise sur autre chose à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux en me disant « Ah bah oui, mais c'est pour ça que Julien il lui donne pas tel et tel... » clé maintenant. C'est pas pertinent tout de suite, en tout cas.
Ouais, encore une fois, donc t'abordes ce sujet parce que ça a été une grosse discussion à un moment. En fait, ça reconnecte à cette discussion qu'on a eue. C'est l'enseignant, il n'est pas parfait et il peut se tromper. Et donc, si je prends mon cas, hein, bien sûr, je fais au mieux pour donner les éléments qui me semblent le plus pertinent maintenant pour toi. Donc, tu as la méthode. Alors là, c'est vraiment cool. Hein, c'est un bon exemple, Evan Manhurst, parce qu'on a le cours en ligne Discover Taichi pour ceux qui le font, ouais, où tout le monde reçoit la même méthode. C'est les mêmes vidéos pour tout le monde, c'est la même méthode. Mais si on a la chance en même temps de faire ça et d'avoir un prof, du coup, ben là, on a l'aspect conseil personnalisé et qui va nous donner le timing. Et donc, c'est parce que c'est dur tout seul de savoir quel est le bon moment pour nous. Donc, quand on peut nous donner des conseils personnalisés, c'est le bon timing pour toi, c'est ça. Et donc, si tu regardes dans les vidéos Discover Taichi, ils donnent certains éléments de timing, difficiles à voir pour soi-même, mais dedans, bah, tu as quand même beaucoup d'éléments. Encore une fois, quand je parle de yin et yang, etc., donc quelqu'un, par exemple, qui est extrêmement pointilleux, mais du coup très tendu dans sa tête, lui, il va avoir besoin de développer plus l'aspect relax, etc. Donc, c'est comme si l'expérience du prof lui donnait plus de recul pour voir plus loin qu'est-ce qu'on cherche et pouvoir doser, ok, toi, maintenant, là, là, ce que tu as besoin de faire, c'est ça. Ouais. Et tu remarqueras, donc c'est parce que c'était le sujet de la discussion, que comme moi, je vais pointer le truc dont cette personne a besoin, c'est pas la chose que la personne, elle a mis au centre de son attention.
Non,
parce que si elle l'avait mis au centre de son attention, j'aurais pas besoin de lui pointer.
Ouais.
Donc, comme je lui pointe, c'est un effort, et c'est particulièrement difficile pour n'importe qui, de porter attention à un truc sur lequel tu ne portes pas attention habituellement. Donc moi, un de mes jobs, c'est d'insister et d'être même parfois embêtant. Et comme je disais, un bon prof, pour moi, il doit t'embêter. S'il t'embête jamais, c'est qu'il va toujours dans ton sens. Et donc,
s'il t'emmène pas là où tu veux pas aller.
C'est ça. Faut que ça soit, t'embêter dans le sens où il te demande des choses qui vont être inconfortables à un moment. Que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, parce que, relâcher, des fois, c'est dur, en fait. Pourquoi on ne le fait pas?
Oui, et puis, parce c'est quoi relâcher et comment?
Il y a aussi ça, bien sûr, il y a aussi ça.
Mais voilà, c'est comment et ouais.
Exactement. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai attiré l'attention sur un aspect qui est que je donnais une instruction et elle a été pas assez prise en compte. Mais ça pourrait être le sujet complet d'un podcast, d'ailleurs. Donc voilà, effectivement, des fois je vois ça dans le travail à deux, etc., des élèves qui bossent ensemble, certains qui vont donner un conseil à quelqu'un d'autre, ou je parlais d'une expérience, un cours où j'étais, il y a des années, hein, où je corrigeais une élève chaque cours, parce qu'elle essayait pas ses hanches, et à chaque fois elle râlait, comme ça, et un jour, donc je la corrige, et puis ça, en fait, pour moi, quand elle râlait, c'est elle s'en voulait elle-même. Mais en fait, c'est pas qu'elle en voulait à elle-même, parce qu'à un moment donné, elle me dit « Mais pourquoi tu la corriges pas à elle ?» Et elle me pointe la personne qui est devant elle. J'étais un peu « Waouh !» Parce que c'est loin de mon fonctionnement. Moi, quand on me corrige, je suis toujours content et je suis toujours reconnaissant, parce que le prof me porte attention et vient me corriger. Et donc, je suis toujours content. Alors que là, c'est pourquoi tu la corriges pas à elle? En fait, j'ai envie de dire, tu devrais être contente que je vienne t'aider toi et pas elle. Oui, et en fait, c'est aussi considérer que ne pas avoir confiance, je sais pas, il y a quelque chose. Parce que si l'autre, je l'ai pas corrigé, tu vois, ça revient à ce que tu disais, pourquoi Julien lui donne pas ses éléments techniques. Ben là, c'est la même chose. J'ai bien vu que l'autre, elle faisait la même erreur. Mais j'ai mes raisons.
Oui.
Est-ce que j'ai besoin de les justifier? Peut-être pas. J'ai mes raisons. Voilà. Là, la raison, par exemple, c'était que cette personne, je l'avais corrigée souvent, et à chaque fois que je la corrigeais, elle me donnait une excuse de pourquoi elle le faisait pas. Elle me disait, oui, mais je suis, je sais pas quoi. Pour moi, c'était une excuse. Mais comme, du coup, à chaque fois que j'allais la corriger, elle me donnait une excuse, bah, du coup, je la laissais faire, parce que, en fait, bah, je me suis dit, ça sert à rien que j'aille la corriger, vu qu'à chaque fois, elle me donne une excuse. Donc, l'autre personne à qui je faisais l'effort, bah, même si elle faisait, je continuais d'aller la corriger, tu vois, et ben, finalement, donc on comprend pas toujours pourquoi le prof il vient de corriger toi et pas quelqu'un d'autre et pourquoi etc. Moi en gros c'est bizarre, mais moi c'est bizarre. C'est pas bizarre du tout, mais quand tu te retrouves dans un stage décadent, t'as plein de gens qui rêvent que Adam vienne te corriger et qui vont être frustrés si c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Au contraire, tu devrais être content à chaque fois que ton prof vient te corriger, il vient te mettre en face. Et en fait, tu devrais même ne pas t'occuper des autres et juste t'es ouais, avec toi-même, t'es dans ta pratique, tu t'occupes que de toi et de tes corrections et tu fais confiance. Le prof, il fait son job et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Cela dit, je finis avec ça. Cela dit, si toi t'observes, là on est dans un contexte vraiment très particulier, on est en tout petit comité, donc c'est quand même c'est un cas particulier, quoi. C'est très différent même d'un groupe de 10, déjà c'est vraiment différent. Mais si tu constates que ton prof, vraiment c'est n'importe quoi, tu vois, son attitude ou qu'il fait pas son boulot pour toi, etc., bon bah c'est le moment d'arrêter de prendre des cours avec lui, en fait.
Ouais,
voilà, c'est aussi normal quand même d'observer son prof et de voir comment vu qu'on veut développer des compétences, on veut quand même s'assurer que le prof il les a, que son état d'esprit ça corresponde à celui qu'on veut développer. Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas de paramètres, donc c'est normal de potentiellement se poser des questions et
oui, dire, pourquoi
il corrige pas lui, etc. Et c'est pas un manque d'attention. C'est des choix de ce qui m'apparaît le plus pertinent et on peut pas tout autogérer, encore une fois, surtout dans le spectre. Tu peux pas en même temps faire yin et en même temps yang, donc faut choisir lequel t'as le plus besoin et à force de faire l'un et l'autre, l'équilibre va pouvoir se développer. Ouais, mais ça, j'en ai fait des podcasts là-dessus. Donc.
Sur quoi travailler au bon moment, ouais. Après, bon, toutes ces choses là où bah on a vraiment l'exemple type, mais tu parles de ça, de donner des exemples types de personnes qui vont à râler parce qu'elles viennent se faire corriger juste. Donc moi, le premier aspect que j'ai, c'est un peu le même que le tien, c'est dire ok, cool, j'ai quelqu'un qui est là pour moi et qui va me donner les éléments pour que j'arrive à faire l'exercice au mieux. Mm-hmm. Mais évidemment, il y a tout un tas de de petites choses qu'on voit pas du tout. On va tous le faire. Et vraiment, plus on va creuser dans le travail des postures, du tai chi ou tout ça, et mettre le doigt sur ce qu'on fait nous aussi. Et c'est ce que j'apprécie parce que moi, au premier abord, je suis comme, moi, je fais pas ça. Tu vois, le premier truc que je vais avoir, c'est, et en fait, quand je me regarde vaguement ou même un peu plus précisément, consciemment, je vais pas faire ça. Et puis, si on creuse un peu ou si à un moment on va, c'est pas qu'on creuse. C'est qu'on continue à suivre la méthode, juste suivre la méthode, en fait, et il y a des choses, en la suivant le plus sincèrement possible, il y a des choses qui vont apparaître assez naturellement, pas parce qu'on se pose la question, quoi, mais vraiment de « Hey, t'as vu là, t'as eu un petit truc, hein, c'était très léger, mais au fond, il y a quelque chose que tu fais, c'est aussi ça, c'est un peu la même chose. » Et ben, t'arrives à pointer le doigt là-dessus aussi par la façon dont t'abordes les stages, dont t'abordes l'enseignement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de fois où on peut se dire bon non pas moi pas
ah ouais, ouais. Bah en fait je pense que c'est ça qui est je vais retrouver un attends je vais aller sur l'ordi là et je vais retrouver un témoignage que j'ai mis et qui illustre un peu ça je trouve. Alors attends, c'est ça c'est le témoignage. Tu te dis est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas celui-là? Ce qui filtre, c'est, alors, je vais le lire, c'est une semaine de stage à l'ETRA, c'est d'abord la promesse de partir à la découverte de soi. Entre parenthèses, Julien nous amène sur un chemin peu fréquenté. Et on peut même avoir parfois l'impression qu'il nous pousse dans les orties. C'est un peu ça. Enfin, je trouve que c'est, je pense que ce qu'il évoque, c'est ça. C'est le fait de pointer des choses qui sont inconfortables et qui sont pas forcément évidentes à voir. Et moi, je suis assez, je pense, taquin, précis. Taquin, mais dans le sens pédagogique, pas, c'est pas juste pour de la taquinerie pour rien. C'est juste montrer, là, il y a un truc, là, il y a un truc. Et du coup, de voir ça, c'est pas forcément confortable de premier abord.
Oui.
Donc, t'as besoin de développer ton attention, parce que qu'est-ce qu'on fait avec notre attention? C'est, naturellement, on a un réflexe, c'est de le dévier de ce qui est inconfortable. On veut pas regarder ce qui est inconfortable, en fait.
Oui, même quand on veut pas. Ouais.
Ouais. C'est ça. Je parle inconsciemment, bien sûr. Hein.
Oui.
Ça veut dire, je parle tout le temps des. Quand tai chi, on a besoin de miroir. Donc le miroir, le vrai miroir, pour regarder sa structure. Là, on peut se filmer pour voir ça, comment on bouge, etc. Se donner un regard extérieur, quoi. Bien sûr, le professeur et les compagnons de pratique qui vont nous donner comme ça des choses extérieures. Mais pour ça, il faut avoir envie de se regarder dans le miroir. C'est si des bases, comment dire, tu as peur de ce que tu vas voir, c'est ça qui peut être inconfortable. Parce qu'au final, bon, oui, ça brûle les cuisses. Bon, ça, c'est bon, c'est un fait établi. Mais à part ça. Non, mais si tu regardes à part ça. Ah, c'est juste psychologique, c'est juste d'accepter de voir. Donc, en fait, il y a plein de choses qui vont devenir de moins en moins confortables parce qu'en fait, tu t'habitues à voir et c'est pas grave. Oui. Et ça devient une habitude et t'as plus peur de regarder tes erreurs parce que tu sais que c'est en les voyant en face que tu vas pouvoir progresser.
Ouais, et puis ça met plusieurs choses en lumière. Après, il y a le moment d'un cours d'une heure et demie ou d'un stage aussi. Mais c'est vrai qu'il y a le. On va cultiver des rapports avec les autres et ça va. Comment dire ça? Disons qu'on va, en cultivant des rapports avec autrui, ça met des choses en lumière. Déjà, naturellement, tu rencontres des gens et donc tu peux ne pas trop le voir et tout. Le fait d'avoir un entraînement en tai-chi, ça va exacerber ça et exacerber nos façons de faire, si je puis dire. Donc après, ça dépend de pourquoi on fait du tai-chi, mais il y a une question quand même de connaissance de soi qui me paraît être un peu au centre de ce qu'on fait là, dans, autant au travers du comment on va réagir avec agir et réagir avec notre corps ou nos façons de faire qui sont intimement liées en fait. Et dans le contexte de ces stages aussi, ben on a le temps de voir la façon dont on fait les choses avec les gens. Bon, après moi j'ai fait deux, là je suis à la deuxième semaine de stage ici. Avant ça c'était deux semaines aussi d'affilée, donc il y a une mise en situation un peu longue peut-être qui permet de voir mes façons de faire et à quel point elles peuvent être ça peut être de la tension, une tension interne qui est à l'origine de façon de faire, de façon de répondre à quelqu'un, que ce soit par l'humour ou peu importe comment, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on est en train de faire vraiment. Et le fait de faire ça, donc d'avoir du monde et de faire ce qu'on fait en posture, tout l'entraînement de tai-chi à côté, je dirais que ces choses-là se nourrissent et s'exacerbent un petit peu. Et c'est assez difficile déjà de voir, bah, comme tu dis, est-ce que j'ai des alignements corrects dans mon corps? Est-ce que je fais les choses physiquement déjà correctement? Est-ce que ma tête est suspendue, etc. Je me suis vu avec des miroirs pas faire correctement et seulement voir des choses sur vidéo, des trucs physiques. Tu nous as beaucoup briefé aujourd'hui sur l'état d'esprit et comment notre état d'esprit... Il était essentiel dans la pratique du tai chi et puis la façon que notre façon de faire, elle influe aussi la qualité de l'exercice. Clairement, il faut avoir cette qualité de l'esprit pour pouvoir faire du tai chi correctement. On doit faire avec ce paramètre aussi qui est
surtout dans une méthode où tout est animé par Song.
Ouais.
Le moteur, c'est Song de tout ce qu'on fait. Le moteur du mouvement, le moteur de la puissance. Donc Song est omniprésent. Donc cette qualité de Song. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de partout. Et je dirais, il y a un type de Song aussi qui est variable. D'une école à une autre, il y a une couleur, une saveur particulière. Comme une manière de bouger. Tu vois, dans chaque école, il y a une manière de bouger particulière. On peut reconnaître quelqu'un de quelle école il vient en général. Juste en regardant bouger, quelqu'un qui, bien sûr, a pratiqué sincèrement, tu vas reconnaître, tiens, la forme, par exemple, la forme du premier système de la Terre, de quelqu'un qui fait HME, normalement, t'arrives à voir que c'est ça. Mais il y a aussi plus loin, pour les gens qui ont plus développé cet aspect, qui ont plus côtoyé Sifu, les élèves avancés, etc., il y a une qualité de Song, il y a un type de Song. Et parce que c'est lié à l'état d'esprit. Et ça, bon, ce que je disais ce matin, c'est un paramètre que tu ne peux pas toucher en vidéo, à distance.
Non.
Tu peux capter pas mal de choses, mais ça, quand même, c'est compliqué.
Il faut pas mal d'attention et d'écoute pour le capter en présentiel aussi.
Oui. Voilà, en fait, pour moi, je le partage dans la mesure, dans la limite de ce que je suis, hein, bien sûr, et de ce que moi, j'incarne. Mais après, est-ce que tu t'en rends compte? Enfin, est-ce que les élèves s'en rendent compte? Effectivement, c'est avec l'attention et tout ça. Mais petit à petit, j'espère, en tout cas, en appuyant là-dessus, là, on a pris un temps, un moment, le dernier exercice qu'on a fait, je pense, qui allume un peu plus cet aspect de sentir cette qualité-là vraiment particulière, ce qui va permettre de mieux la reconnaître, et ainsi de suite. L'attention reste au centre de tout ça quand même. Faut apprendre à dompter. On va dompter son attention. Qu'elle arrête d'agir de manière sauvage et en faisant ce qu'elle veut, en allant n'importe où. Voilà, ça, c'est un truc important.
Voilà, bon, j'ai fait, ça fait du temps que je suis pratiquant, ça fait longtemps que je suis pratiquant, mais je vois que en parlant de dompter l'attention et de l'esprit, où je commence à percevoir que mon esprit se calme, c'est à la fin de la deuxième semaine où je vois certaines tensions que j'avais pas vues qui se révèlent, mais aussi mon esprit qui peut rester plus de temps à l'intérieur de moi sans partir ailleurs, ou moins d'agitation, juste moins d'agitation. Mais pour ça, je vois bien, la dernière fois c'était la même chose, vers la fin de la deuxième semaine, je perçois ce changement, pas avant.
Ouais, donc comme quoi, en fait, c'est lié aussi justement à le niveau de calme et de clarté du coup que tu vas acquérir, va te permettre d'en voir plus.
Oui.
Donc c'est pas qu'il y en a plus, mais c'est que du coup il y a une meilleure vision, une vision plus claire, qui va te permettre d'en voir un peu plus. Et du coup on peut avoir ce sentiment qui peut paraître contradictoire, de je vois plus de tension, mais je me sens plus calme. Ça peut paraître dit comme ça contradictoire, mais non, c'est normal, c'est logique en fait. C'est parce que justement t'es plus calme que tu vois plus de
que tu vois plus d'agitation. Ouais.
Donc voilà, bah on verra après 3 semaines du coup, parce que
ouais, on parlera des autres phases.
Chaque semaine va être une nouvelle aventure. Alors ouais. Du coup, on n'a pas du tout abordé le sujet de départ.
Pas du tout.
Enfin, pas du tout. Alors, en fait, on était parti sur un truc, puis bon, voilà, on va peut-être juste clôturer là-dessus, comme ça, quand même, on l'aborde.
Ouais.
C'était une histoire de formation en 2 ans. C'était ça le... Non, c'est pas ça. Ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Donc, le deuxième sujet que j'avais en tête, c'était que j'avais reçu un mail où on propose des formations de 2 ans de Tai Chi et de Qigong. Mais ça fera le sujet. On en reparlera. Hein. Ouais, je pense que tous les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter, je pense que vous savez déjà ce que je pense de ça. Je sais même pas s'il y a besoin de faire un podcast. Bref, puis je pense que vous pensez comme moi, d'ailleurs. C'était l'histoire, ouais, en fait, je regardais dans mes notes, parce que des fois, quand j'ai des idées, je me dis, tiens, ça peut être des sujets de podcast, je mets ça dans mes notes. Puis j'ai écrit une note et je comprenais plus du tout. Je ne comprenais plus du tout ce que j'avais écrit. Et c'était quoi? Mais non, mais c'est même pas ça, si.
Si, si, on est parti là-dessus sur le... Mais...
Le fait de pas savoir où ça nous amène?
Oui,
c'était ça.
Le fait de faire quelque chose.
Je parlais, ah oui, en fait, ça m'a amené à parler de mon expérience de vie, où en fait, voilà, ça y est, je retrouve le fil. C'était le sujet de... J'adorais faire de la musique, j'adorais faire de la guitare, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je fais un gros résumé, hein, mais ça aille très vite. Donc, comme je ne savais pas quoi faire d'autre, j'ai fait une école de guitare. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai juste fait ça parce que j'aimais faire ça. Puis après, voilà, je suis devenu enseignant de guitare, etc. En fait, j'ai trouvé le quoi en faire après. C'est... J'aimais faire ça, j'ai beaucoup fait ça, et ensuite, qu'est-ce que je vais en faire? C'était la question suivante. Le tai chi, je me suis mis au tai chi, j'étais à fond, j'en faisais tous les jours, j'étais au taquet, c'est devenu une passion plus forte que la musique et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et au bout de quelques années, au bout de 6 ans, j'ai commencé à enseigner un petit peu, en plus de la guitare, et progressivement, petit à petit, le tai chi, j'ai enseigné de plus en plus, je suis passé à HME, etc. Et maintenant, c'est mon métier à temps complet. Mais au départ, je me suis pas mis dans le tai chi en disant, je vais enseigner le tai chi. Je me suis juste, j'adorais faire ça, et la question de qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que d'ailleurs je vais en faire quelque chose professionnellement, s'est posée après. Et je parlais du fait que je voyais beaucoup, même à l'époque où j'enseignais la guitare, des jeunes même, où en fait, comme tu dois décider très vite qu'est-ce que tu dois faire, et ben voilà, on a ce truc de tiens, je vais être professeur de musique, alors que j'ai même pas commencé à jouer de la musique. C'est-à-dire que tu as déjà le projet professionnel avant de commencer l'activité. Et je trouve que c'est bizarre. C'est, à mon avis, l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc c'est comme aborder une formation, donc là ça refait le lien avec le mail dont je parlais, c'est comme faire une formation en disant tiens, je vais faire une formation de prof de Qigong alors que je ne pratique pas encore le Qigong, ou je vais faire une formation de Tai Chi qui dure 2 ans pour être prof de Tai Chi alors que j'en ai jamais fait. Tu vois, pour moi ça n'a aucun sens en fait. C'est la mauvaise question, parce qu'en plus du coup tu vas mettre une pression professionnelle dans quelque chose alors que tu n'as même pas commencé à essayer la chose en question. Je pense que Ludo veut partir. Je fais des gros pics comme ça.
Oui.
Ciao.
Merci bien.
Merci à toi d'être venu.
C'est vraiment cool. Ouais. J'ai passé vraiment une bonne semaine.
Cool. bonnes vacances. J'en ai bien décousu. J'ai une année pour recoudre tout ça.
Profite bien du moelleux acquis dans, dans tes épaules.
Je pense que la pratique va être autre. Je vais aller rouler maintenant. Je vais arrêter de faire du vélo.
Je vais aller rouler. J'ai compris.
Merci Mathieu, c'est
cool. Merci.
C'est un bon partenaire pratique, c'est sympa de
d'échanger.
Très bien.
Bon gars.
Je reviendrai.
Tant mieux. Ouais.
Ouais, bel été et à bientôt.
Ouais, bonne route.
Ouais,
ciao.
Ciao. Salut. Voilà, du coup, voilà. Donc j'ai fini le propos, je crois que c'est bon. T'as retrouvé le fil.
Ouais, moi là où j'en étais là-dessus sur cette question de chercher à avoir un projet professionnel avant même de démarrer une quelconque pratique ou quoi. Moi, c'est pour le. Bon, aujourd'hui, j'enseigne le Qigong, j'enseigne les arts internes et tout, mais c'est vrai que à chaque fois, c'était un peu sur le même type de parcours que toi de faire du Qigong. Et on me dit, tu veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment, enfin, voilà, qu'est-ce que t'as comme projet? Bon, moi, j'ai juste envie de faire ça beaucoup parce que ça me plaît beaucoup et sans aller chercher plus loin. Et en effet, ça crée, je pense que quand on est aussi dédié à une pratique comme ça, ben, ça crée des ouvertures, ça crée des opportunités. Je me suis retrouvé à, malgré moi, donner des cours. On me dit, je pourrais peut-être aller un peu plus en profondeur sur le sujet, mais en gros, en allant chercher des nouveaux enseignements, on m'a proposé de donner des cours. Et puis, de fil en aiguille, en fait, bon, il y a un parcours professionnel qui s'est tracé pour moi. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais aller faire ce cours ou cette formation de Qigong parce que j'ai envie d'être enseignant. Et là, peut-être aujourd'hui, on nous pousse à voir la chose comme ça, avoir tout un projet préétabli. Mais c'est vrai que ça klaxonne à côté. C'est vrai qu'on a, sur des disciplines comme ça, encore plus, c'est bien quand c'est vraiment une vocation et qu'on est juste à avoir une envie profonde et une pratique sincère peut-être de la chose. Et bon, après, peut-être on va enseigner avec ça, mais que ce soit pas du tout le leitmotiv de départ, quoi.
Ouais, puis pour revenir à ces formations, aux gens qui proposent des formations comme ça, enfin aux gens, aux institutions, je sais pas, qui proposent des formations de 2 ou 3 ans, j'allais dire, pour moi c'est un peu fort ce que je dis, mais parce que quand on a une profonde estime de ce que c'est, du travail que c'est, de ce que ça représente, etc. Dire que en 3 ans tu peux avoir acquis un niveau pour transmettre cet art, c'est la première école que j'ai faite, je crois qu'on disait pas avant 6 ans, ce qui me paraît déjà un peu plus, parce que même si on est très doué et très bon, il y a quand même un niveau d'expérience, de temps, de recul.
Il faut du recul.
Ouais, du recul. Le recul de l'expérience. Et c'est des arts pour transformer. Et ça prend du temps de se transformer aussi. Et le recul et l'expérience, tu l'as par ta propre transformation, entre autres, déjà, dans un premier temps. Et ça demande quand même un minimum de temps. Et suivre le courant moderne de tout doit aller vite, tout doit arriver très rapidement, on peut tout faire vite fait. Pour moi, ça contribue à laisser penser à la population qui n'est pas là-dedans, quoi, qui ne pratique pas ces arts, à laisser penser que c'est des choses légères qui peuvent s'acquérir très vite. Et pour moi, c'est une très mauvaise chose de diffuser ça, ce qui est arrivé avec le yoga beaucoup, hein, parce que le yoga est beaucoup plus populaire, répandu, etc. Et il existe la même chose. De toute façon, dès que quelque chose devient extrêmement répandu et populaire, ça lui fait perdre de la profondeur.
Je suppose que dans tout métier, quasiment tout métier, il y a besoin d'une dizaine d'années. Ben, du coup, je vais reparler un peu de mon parcours où j'ai pratiqué pendant 7 ans la même méthode qui était très simple. Hein, c'était simpliste. Il y avait vraiment très peu de choses dedans. Ça, bon, avec ses failles et tout, mais quelque chose de plutôt sérieux. Et puis, j'ai suivi une formation professionnelle en 3 ans. Et ça a fait partie de mon parcours. C'était, pour moi, c'était très bien de voir qu'il y avait plein de choses différentes, même si c'est pas une forme, enfin, pour moi, c'est, ça m'a pas formé à enseigner, mais bon, ça, ça permet de voir le vaste monde, si on peut dire. Et au bout de 10 ans de pratique, j'enseignais déjà, j'avais des cours, avec, bon, voilà. Au bout de 10 ans de pratique, j'ai arrêté d'enseigner, parce que je voyais bien le décalage entre ce que j'enseignais de, un peu comme ça m'avait été transmis, et mon véritable recul et ma connaissance là-dessus. Donc, c'est vrai que j'ai passé 2 ans à pas donner d'enseignement du tout, parce qu'il me fallait du temps, mais au bout de 10 ans. Et on parle dans ces arts-là, un peu, il y a cette question de sortir, de ne plus être novice au bout d'une dizaine d'années. Ça veut pas dire que t'es devenu un maître, pas du tout, mais juste que, ben, tu commences un peu à comprendre les tenants et les aboutissants de la méthode. Voilà, tu sais vers quoi aller.
Et encore, on parle dans un cadre où, tu vois, t'as une méthode qui est vraiment claire. Donc là, par exemple, si je reviens dans le système de HME, t'as une méthode qui est extrêmement claire, etc. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des gens qui ont 10 ans, 15 ans de pratique, par exemple, qui vont se mettre à cette méthode, et ils vont pas attendre 10 ans, 15 ans pour la transmettre, parce que tu as déjà derrière beaucoup d'expérience, quoi. Il faut un minimum, mais aussi, du coup, tu as un support, notamment tu as les vidéos, donc tu as un support extrêmement clair que tu peux retransmettre sans partir sur tes trucs à toi réinterpréter. Mais quand tu n'as pas une méthode extrêmement claire comme ça, c'est compliqué, parce que tu vas transmettre à partir de ton expérience, sauf que ton expérience t'en a très peu. Et au final, t'as une perte de qualité et de profondeur de ces arts-là. Bon, enfin, juste, il suffit de regarder ce qu'est devenu le monde du yoga. Hein. C'est
oui,
plus facile
de,
à voir.
De n'importe quelle méthode, quand on, enfin, HME, on a quelque chose qui est extrêmement qualitatif. Enfin, il y a pas, c'est difficilement, enfin, pour moi, hein, c'est difficilement comparable avec, avec la plupart des choses qu'on va voir en Qigong ou en Tai Chi. C'est très compliqué de comparer, en fait. C'est parce que c'est...
Ouais, si, on compare, mais...
Oui, non, mais oui, d'accord, mais de comparer à échelle égale, parce qu'on a une qualité, ben, les vidéos, la clarté aussi des consignes données, où on a juste besoin de faire exactement ce qu'on nous dit de faire et rien d'autre. J'ai pas vu de méthode où c'était aussi clair, enfin, où
oui, j'ai jamais rencontré ça non plus.
C'est ce que je dis un peu dans, enfin, quand on me demande pourquoi je vais ici ou là, en fait, je vais vers ce qui me paraît être le mieux. Donc, c'est vrai que quand je rencontre une méthode qui me paraît la mieux par rapport à tout ce que j'ai vu jusque là, je vais vers ça, naturellement. Donc après, c'est sûr que sur HME, bon, on en a parlé, hein, de personnes qui ont 30 ans de pratique et
je suis en train de mettre la cite, ça me fait penser à la citation de,
je la connaissais pas,
de Oscar Wilde qui est j'ai les goûts les plus simples du monde, je me contente du meilleur.
Voilà, c'est mon approche de la pratique.
C'est pareil. Donc ça veut dire tu vas vers le truc qui te semble mieux, quoi. Après si aujourd'hui je trouve un truc qui me semble mieux, on sait pas, tu sais. J'en sais rien.
Ouais.
Bon, je suis tellement absorbé dans cette méthode que j'irai pas forcément regarder. Déjà, il faudrait que je regarde ce qui se passe et tout ailleurs pour voir un truc qui serait mieux. Je l'ai fait beaucoup avant, hein, d'être dans cette méthode. C'est-à-dire, il y a une période de transition quand je faisais encore l'autre système où je regardais beaucoup ce qui se faisait. Et donc, si j'ai choisi. Enfin, en fait, si j'ai arrêté aussi, c'est parce que j'ai vu cette méthode-là. Là, en fait, je ressens pas, c'est tellement clair, complet, etc. Aujourd'hui, si je voyais un truc meilleur, en vérité, je ne sais pas si je changerais. Parce que c'est déjà tellement bien et que j'ai investi depuis longtemps. Enfin, maintenant, voilà, je suis bien dedans. Si, comme je l'ai fait avant, pour le coup, par contre, c'est qu'il y avait plein de trucs qui ne m'allaient pas, donc j'allais voir ailleurs, etc. Donc c'est différent, ce n'est pas la même dynamique.
Tu vois qu'il y a des lacunes et, voilà. et comment lier les choses.
C'est ça. Mais après, changer toutes les... Bon, c'est pas forcément pertinent non plus. Mais là, vraiment, de toute façon, j'ai du mal à imaginer que je puisse trouver meilleur dans le sens. Je préfère préciser, parce que je vais être critiqué là-dessus, sinon.
Sûrement.
meilleur pour moi. Par rapport à mon prisme, par rapport à moi, ce que j'attends, ce que je pense, etc. C'est pas meilleur dans l'absolu. Je dis pas que tout le reste est nul et que tout le reste est moins bien. C'est par rapport à moi, ce que je recherche. C'est la méthode qui me correspond le mieux, qui est... T'as vu, j'arrive à être un peu...
Ouais, c'est bien, c'est
un
bien.
Un peu, bravo, comment on dit...
Bravo.
Je trouve plus le mot.
Ouais, peu importe.
Voilà,
bravo.
Hein, voilà, c'est...
très bien. Très bien, très bien. Oui, bah, après, c'est une question de, d'objectif. Pour,
aussi, oui, c'est ça, exactement.
Et puis de ressenti personnel, en fait, on va aller vers quelque chose qui, à nous, nous semble correspondre à, correspondre à ce qu'on cherche. C'est sûr que ben, c'est une école où tu, on va se pousser aussi. Il faut avoir envie de ça un minimum.
Bien sûr.
Et bon, après, il y a d'autres choses qui me paraissent intéressantes. Enfin, si j'étais tombé peut-être sur ce que fait Damo Mitchell avant, je serais peut-être allé suivre sa méthode, etc. Évidemment, c'est des méthodes tellement riches qu'on n'imagine pas du tout faire les deux en même temps, ou ça n'a aucun, enfin voilà, c'est hors sujet.
Bah, c'est compliqué, ouais. Déjà, j'ai du mal à tout faire. En fait, il y a une telle richesse de pratiques, d'enseignement. Et comme si je parlais de ça, il y a l'état d'esprit, il y a l'ambiance, il y a le vocabulaire, il y a tout un monde en fait quand on rentre dans un enseignement, dans une transmission d'une école particulière, il y a tout un monde qu'on rencontre aussi.
Ouais.
Et de faire ça en côtoyant, enfin, avec un autre en parallèle, je pense que c'est compliqué de complètement être absorbé. Après, voilà, chacun ses projets, chacun ses objectifs, chacun sa manière de voir les choses, chacun son tempérament. Il y a des gens qui aiment avoir une femme dans leur vie, il y en a qui aiment bien aller voir 20 femmes dans leur vie.
Je fais ce parallèle parce
que c'est drôle. Mais c'est vrai en même temps. Tu vois, chacun voit midi à sa porte et fonctionne comme il fonctionne. C'est vrai que moi, je reconnais maintenant avec le recul, tu vois, je prends un peu de recul et tout, je me dis bon, ok, je dis pas que tout le monde doit faire pareil, c'est mon fonctionnement aussi. Moi, je suis assez monomaniaque. Je suis assez, je trouve un truc qui me va bien, bam, j'investis et j'aime bien, moi, c'est simple. Je trouve un truc, allez, et je creuse, tu vois. Plutôt que faire 15 trucs différents, essayer de faire ma tambouille. Je l'ai beaucoup fait pour la musique, pour la guitare. Je fais ma tambouille. C'est très satisfaisant au niveau de l'ego parce que tu fais ta propre méthode, tu fais tes propres recherches. C'est très satisfaisant. Est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Pour certains, oui. C'est ce qu'a fait Adam. Oui. Alors, il l'a fait dans le sens où il n'a pas bidouillé les méthodes. Il a juste pris une méthode, pris le meilleur des enseignants qu'il a eu. Dans le système de Wang, par exemple, pour le premier système de la Terre. Après, il y a le deuxième système. Donc, il a structuré et organisé. Voilà, après, il n'a pas fait sa tambouille en inventant, en mixant, en mettant des techniques internes d'une méthode dans une autre. Il n'a pas fait ça du tout. Ça fait partie des préceptes, ne pas mixer. Il a structuré et organisé par rapport à ce qui, lui semble le plus fonctionnel. Lui, il a pratiqué beaucoup de formes et de systèmes. Il a rencontré beaucoup de maîtres. Il a essayé plein de choses. Donc, en gros, il a sélectionné ce qui, pour lui, est le plus efficace, le plus fonctionnel. Et on peut vérifier la fonctionnalité dans ses élèves qui développent les compétences.
La question, oui, c'est vrai qu'en travaillant HME aussi, on a très vite des... Bah, j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, c'est cette question de à quel point on va sentir l'ouverture du corps, juste en faisant... Moi, j'ai fait le premier exercice. Bah, d'ailleurs, le Songong numéro 1, je crois que la vidéo du cours en ligne, elle est sur YouTube.
Elle est sur YouTube, ouais,
gratuitement. Ouais. Donc, il suffit de prendre ça, d'essayer de le faire au plus proche possible. Enfin, pour moi, ça a fonctionné comme ça. J'ai fait le premier mois du cours en ligne. Et,
premier mois gratuit.
Le premier mois gratuit aussi. Instant promo en passant, l'air de rien.
Premier mois gratuit et sous-titré en français. Et en plus, vous pouvez arrêter votre abonnement en gardant le mois gratuit, arrêter votre abonnement et continuer d'avoir accès à ces vidéos. Parce qu'en fait, on peut faire la pause. Tout ça, on me demande assez souvent, même des gens qui sont inscrits depuis longtemps, on me demande si j'arrête l'abonnement, qu'est-ce qui se passe? Si vous arrêtez votre abonnement, vous avez toujours vos vidéos. C'est comme si vous les achetiez, en fait. Donc, tu peux toujours te connecter à ton compte, regarder les vidéos et réenclencher l'abonnement quand tu veux. Donc, tu peux faire une pause au bout de 3 mois, laisser passer quelques mois, reprendre l'abonnement. Ça va te libérer une vidéo nouvelle chaque semaine, mais tu ne perds pas l'accès. Donc, tu peux faire le premier mois gratuit, l'arrêter et continuer de faire ton mois gratuit.
De voir les vidéos
pendant des mois et des mois si tu veux. Voilà.
Premier mois, ouais. Ouais, voilà. Tout à fait.
Et si tu as autre chose à dire, mais vu l'heure, il va falloir qu'on arrête là.
Ouais, oui.
Mais juste, ça me fait penser là, cette histoire du premier son qui est gratuit sur YouTube. Il y a quelque chose auquel il faut être attentif aussi, à mon avis. c'est cette tendance qu'on a à dévaloriser ce qui est gratuit. C'est malheureux, mais aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec si c'est cher, c'est qualitatif, si c'est pas cher, c'est pas qualitatif. Je résume, hein, tout le monde pense pas exactement comme ça, mais il y a un petit mode comme ça. Et c'est malheureux, et des fois, ouais, alors lui, il pense trop à l'argent, machin et tout. En fait, je pense que Sifu, s'il avait fait cours gratuit sur YouTube en mettant tous ses cours gratuits, je suis sûr qu'il aurait pas eu autant de succès. Ça dévalorise, ça ne fait pas. En fait, tu te dis, c'est inconscient, mais on pense pas que quelque chose est qualitatif si c'est offert et gratuit. Et donc, ce premier Son Gong, il est gratuit sur YouTube. Vous pouvez y aller. Et c'est pas parce que c'est gratuit sur YouTube que ça n'a pas de valeur. Regarde-le encore et encore. Et juste dans le premier Son Gong, il y a déjà beaucoup de choses à travailler et qui sont déjà bien, bien détaillées, bien plus que beaucoup de choses qu'on peut trouver.
Oui. Et l'air
de même payante.
C'est vrai qu'on a tellement peu d'attention pour ça, mais souvent on ne va pas s'apercevoir de à quel point ça peut être riche aussi, parce que on a
parce que c'est gratuit, parce que c'est donné librement. Ouais. Mais c'est une raison d'attention. Par exemple, tu viens de loin, tu voyages de loin, tu payes un stage cher, t'es quand même vachement cher, ou en tout cas pour toi ça représente une certaine somme. C'est un effort.
Ouais.
Et ben du coup tu vas être vraiment attentif. Encore une fois, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors oui, que tu prends un cours tachi parce que c'est à 2 mètres de chez toi, parce que c'est pas cher, et parce que je sais pas quoi, tu vas pas forcément te rendre compte qu'en fait, le gars, c'est peut-être un enseignement vraiment qualitatif. On se rend pas forcément compte de ça. Donc, quand t'as essayé d'autres cours, quand t'as fait un peu le tour et que t'as essayé beaucoup de choses, des cours en ligne, etc., ben en fait, tu peux vraiment reconnaître ça. Et c'est pas parce que c'est gratuit que... Ah, faut pas se faire. Ouais, c'est ça. Voilà.
Oui. Bon. Bah après, si pour terminer sur.
Je te laisse conclure.
Sur HME, bah c'est. On parlait de ce qui paraît qualitatif. Ben c'est moi, ça a été. Il y en a plein qui vont voir les vidéos YouTube, etc. Les qualités d'Adam, à quel point il pousse bien les mains. Bon, moi ça a été vraiment le. À quel point ça ouvre le corps, mais il y a aussi. Faut que ça nous corresponde. C'est-à-dire si la personnalité, la façon d'enseigner d'un enseignant te convient pas du tout, c'est sûr, faut aller voir autre chose, faire d'autres choses et plus s'y intéresser, quoi.
Tout à fait. Par exemple, moi, à travers ce podcast, il y a pas mal de gens qui viennent notamment parce qu'ils ont écouté, ou en tout cas, ça a contribué au fait qu'ils viennent. C'est-à-dire que quand tu m'écoutes, tu fais « Ouais, ce gars-là, ok, je vais aller voir ». En tout cas, il n'y a rien qui me dérange trop, tu vois.
Oui, ouais, ouais.
Mais si, quand tu m'écoutes, ça t'horripile, effectivement, ça ne sert à rien de venir. Parce qu'en fait, du coup, tu vas réagir. En fait, si tu n'arrives pas à. Si tu as trop de résistance au caractère ou au tempérament, tu vas avoir du mal à juste appliquer les instructions, en fait, à les écouter, à les appliquer. Donc, il faut qu'il y ait quand même un minimum de. T'es OK pour être là déjà de base.
D'adhérer à ce que tu veux, à la personne, enfin, d'adhérer un minimum,
À
la personnalité de la personne avec qui tu vas travailler. Mais même si, après, c'est toi qui fais les podcasts, donc c'est, voilà, ça fait partie de ta personnalité. Vraiment, l'ambiance des podcasts et comment on développe les choses, comment tu développes les choses, c'est pas représentatif. Tout à fait représentatif de l'ambiance qu'on va retrouver en stage et de la façon dont tu vas les amener dans l'enseignement. J'en ai parlé déjà, mais je le redis pour ceux qui écoutent. On est vraiment coachés. Tu viens bien pointer du bout des doigts ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les façons de faire. Avec beaucoup de méthodes, en fait. Et c'est vrai que bon, moi...
tu veux dire que le côté un peu sérieux de l'entraînement, peut-être ?
C'est pas tant le côté sérieux de l'entraînement, c'est ta méthode, ta façon de faire, comme de bien percevoir qui a besoin de quoi, à quel moment.
Oui, okay.
Et ça, c'est pas fréquent, c'est assez rare. En fait, moi, j'ai vu beaucoup de profs, d'enseignants, j'ai suivi une formation, un CQP aussi, un sport pour tous, pour être animateur sportif. Donc, j'ai côtoyé des enseignants et cette notion de qu'est-ce que la personne veut, mais de quoi elle a besoin. Et c'est une notion assez essentielle. Et puis avec le prisme d'une méthode qui est vraiment claire. Donc là, faut venir essayer, faut venir voir. Et il y a on s'imagine pas à quel point c'est riche de venir là avec, bah avec toi, hein, pour le coup, de venir et de faire ce travail-là. Il y a une richesse. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans mon coin, donc faut pas le faire. Faut venir le plus rapidement possible. Surtout pour ceux qui, encore plus, pour ceux qui suivent le cours en ligne, c'est essentiel. Moi, s'il y a des Français, là, des Français qui nous écoutent et qui sont pas venus faire un stage, une journée ou cinq jours avec Julien, mais qu'est-ce que vous faites? Non, si on suit le cours en ligne, c'est essentiel de, bah, toi ou un autre enseignant. Bah, moi, je parle de toi parce que t'es le plus proche pour ça, quoi. Et que t'es très aussi volontaire d'enseigner la méthode, de la transmettre et de la faire connaître. Donc tu diffuses, c'est vrai, tiens, t'as une minute publicité. Mmh. C'est vrai que t'as les cours à la journée qui sont, donc des cours à la journée qui sont à Lyon, à Avignon. Maintenant tu vas venir jusque Rennes, donc pas très loin de chez moi.
Et merci, tu vois, j'allais oublier de rappeler ça.
Ouais, mais il y a tout ça et ça donne pour. En se donnant un tout petit peu de mal, des occasions de venir déjà à ta rencontre et puis de pouvoir travailler cette méthode convenablement, parce que les vidéos en ligne, c'est bien, mais on n'imagine pas à quel point on peut être à côté, autant pour les instructions simples que pour cette question d'état d'esprit qui est aussi essentielle et qui va aller vers la réussite ou pas d'un exercice. Mmh. On l'a vu ce matin, hein, où si on n'était pas song avec notre esprit aussi, juste ce qu'on faisait, ça ne marchait pas.
Mmh. Ok, ouais. Cool.
Bon, on a.
Merci beaucoup. C'est cool que tu dises ça. On a l'impression que je t'ai dit de dire ça avant. C'est pas le cas.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est cool. Effectivement, en podcast, moi, je peux. C'est normal. Je peux pas transmettre ce qui se passe dans un enseignement, quoi. C'est plus pour caler le blabla, en fait,
ouais,
dans le podcast. Donc, on peut pas s'imaginer, je pense, effectivement. Donc, c'est chouette que tu le dises et que, voilà. Puis moi, je me rends pas compte parce que je m'écoute pas. Enfin, j'ai pas le recul de moi-même. Enfin, ouais, tu vois, voilà. Ouais. Donc, c'est chouette, toi, en tant que personne qui a découvert mes podcasts avant et qui est venu en stage
aussi,
ici,
ouais.
De parler de ce parallèle et tout ça, c'est cool. Mais effectivement, par contre, ça, c'est quelque chose que je me dis des fois, c'est. Je me dis, je vois des personnes qui font le cours en ligne et tout, et c'est chouette parce que, encore une fois, le cours en ligne est exceptionnel, mais je me dis, ah, purée, s'ils étaient venus plus tôt, ils auraient vraiment gagné du temps.
Oui.
C'est un gain de temps énorme, en fait. Tu te fais gagner des années, je pense, vraiment, en entraînement.
Ah, là,
parce que tu peux passer à côté de détails, de petites choses. Et c'est pire, je pense, quand t'as beaucoup d'expérience, parce que tu penses.
On peut penser ça
plus, mais, ouais. Ouais. Et puis, tu peux plus penser que tu sais parce que toi t'as de l'expérience, donc tu comprends ce qu'il dit et tu peux vraiment passer à côté de beaucoup de choses, ouais. Mais bon, voilà, après c'est comme ça, chacun fait les choix en fonction de ce qu'il peut, on va dire ça, sûr. Comme ça,
ouais.
Mais en tout cas, c'est cool que tu en aies parlé. Ok, et eh bien voilà, bah, oui, écoutez, oui. Si vous voulez rencontrer Mathieu il sera là jusqu'à tous les fins de stage là de juillet.
Oui.
Il reste encore quelques places.
Il reste des places les deux dernières semaines de juillet.
Deux dernières semaines de juillet. Oui, la semaine prochaine c'est complet, mais les deux dernières semaines de juillet, il reste des places. Et puis il y a le stage d'août après en gîte. Il reste quelques places aussi. Ce sera un contexte un peu différent. Du coup, en gîte, tout compris, tout ça. Donc, c'est, disons, pas soucié de la logistique, mais un peu différent. Voilà, je vous laisse aller sur le site, aller voir sur le site et ne pas hésiter à me contacter si vous avez des questions. Merci encore, Mathieu.
Très bien, merci.
Ouais, on se revoit la semaine prochaine.
Ouais,
on refait un podcast la semaine prochaine.
Pour changer. Salut.
Allez, bonne pratique à tous. À bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr. Et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.